Voilà, bienvenue à tous sur ce sujet éminemment d'actualité, intelligence artificielle. Alors le titre, c'est l'intelligence artificielle et moi. Au départ, c'était l'intelligence artificielle et l'Église. Donc on va quand même passer humblement par l'Église pour parler des implications que cela peut avoir pour nous et surtout de l'ordre de notre responsabilité, de notre posture par rapport à cette puissance technocratique. Deux idées fortes, une image. Si on n'a pas de permis de conduire dans la vie sociale, ben, c'est souvent la vie est compliquée. Il va falloir que l'on passe aussi notre permis d'IA. On pourra pas y échapper. Et donc, évidemment, il faudra apprendre à conduire. On va devoir passer notre permis de conduire de l'IA. Voilà, je pense que c'est absolument incontournable. Et donc, le code de la route, il va falloir en parler. L'Église en parle, ce code de la route. Et puis après, de notre posture au volant, il y en a qui pestent tout le temps au volant, qui invectivent, ou il y en a qui sont très, très paisibles. L'important, c'est avec la voiture, où est-ce qu'on va en vacances? On va à Nouvelle-Fuselier, c'est très bien. Avec l'IA, où est-ce qu'on veut aller? Voilà, ça c'est déjà une première idée, permis de conduire, permis d'IA. Et une deuxième idée transversale, c'est qui mène qui? Est-ce que c'est l'écran, l'IA, le smartphone, le paradigme technocratique qui me mène, ou est-ce que c'est moi qui le mène? Voilà. Qui mène qui? Par exemple, pour le smartphone. En France, on allume en moyenne son smartphone 256 fois par jour. Donc, une fois toutes les 6 minutes. Aux États-Unis, une fois toutes les 4 minutes. Donc, voilà, il y a quelque chose que l'on a dans la peau. Progressivement, avoir une posture éthique. Alors, si on met en perspective ce sujet à partir de la réflexion du magistère de l'Église, hein, de l'enseignement de l'Église, ça enchaîne déjà un certain nombre de prises de position qui datent depuis 2020, l'appel de Rome pour l'éthique de l'IA, avec où on fonde la question de l'algorithmique, base d'une éthique partagée de l'IA. Après, vous avez les messages pour la Journée mondiale de la paix ou des communications sociales, une invitation à une sagesse du cœur avec l'IA, et puis le refus clair des armes autonomes, aujourd'hui des drones autonomes, quoi. Il y a le fameux discours du pape au G7, la première fois qu'un pape va au G7, hein, en Italie, en disant très clairement que l'IA ne peut jamais être neutre. Jamais être neutre. Elle est toujours le fruit de. Les artefacts sont le fruit de pensées, d'orientations, toujours avec quelques biais cachés. Et puis, on rentre progressivement dans des textes un peu plus, on pourrait dire, pas d'intention, mais d'éducation. Antiqua et Nova, de janvier 2025, un texte transversal entre le ministère de la Culture, le dicastère de la Culture et la Congrégation pour la doctrine de la foi. Très beau texte, on va commencer par mettre en évidence ce qu'il dit. Ensuite, vous avez un texte plus doctrinal, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est au fondement de l'encyclique du pape Léon, qui s'appelle Covadis Humanitas. C'est un texte de la Commission théologique internationale, donc c'est le plus haut niveau spéculatif dans l'Église. On en parlera, et bien sûr, l'encyclique elle-même, qui rassemble cet historique en des prises de position très claires. Avec beaucoup d'appels à la vigilance, c'est le plus haut niveau du magistère, une encyclique, et qui synthétise beaucoup de prises de position précédentes, celles évoquées notamment. Alors nous, on va traverser trois documents, et puis essayer de voir les implications. Vous voyez à nouveau, moi j'ai écrit trois bouquins sur les questions technologiques. Un premier bouquin sur le constat. La fascination que ça exerce, la fascination des nouvelles technologies, 115 questions, 115, le numéro d'urgence. Ensuite, hyperconnecté, libre, les implications de la technologie sur le corps, l'âme, l'esprit et les relations. Donc, impact potentiel des écrans en tant qu'ils font écran à la vraie vie. Bien sûr, proposition d'antidote. Et puis, le dernier, qui, à mon avis, est comme le levier, le médium qui nous concerne tous. Nous avons tous un smartphone. Comment se positionner par rapport à son smartphone, libéré, délivré de son smartphone, 10 jours pour reprendre le contrôle. Voilà, la personne avec qui je l'ai écrit, mon éditrice, elle est là, voilà, elle est dans cette salle. C'est une belle histoire de rencontre. Alors, la question de point de départ, de point de vue éducatif, Antiqua et Nova, c'est une instruction signée par le pape et qui nous invite... janvier 2025, c'est une date emblématique dans l'Église. Pourquoi? C'est la Saint Thomas d'Aquin. Donc, pour certains, c'est incontournable. En tout cas, à Toulouse, puisqu'on a la tête de Saint Thomas d'Aquin à Toulouse, il y a toute une procession qui se fait dans l'Église avec la tête et dominicain derrière. Voilà, très sympathique. Alors, voilà. Donc, alors, ce texte. Il nous invite de manière, il est optimiste. C'est un texte optimiste. On va voir qu'il y a un petit glissement quand même entre un optimisme et une forme d'appel cru à la vigilance. Antiqua et nova, des réalités anciennes, des réalités nouvelles. Voilà. Alors, ce texte nous invite de manière ferme à nous réapproprier notre esprit critique. L'antithèse de l'esprit critique, c'est le scrollage. Voilà. On scrolle. Alors, vous savez ce que c'est scroller? On enchaîne les vidéos, au moins les messages des vidéos, les premières images des vidéos. On scrolle sur YouTube, on scrolle sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et au bout d'une heure, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc, se réapproprier une forme de distance, d'esprit critique. Voilà. Poser des questions avant de vouloir trouver des réponses. Poser des questions avant. Sous-entendu, poser un thème de recherche avant d'épouser ce qu'on nous donne à regarder sans avoir posé de questions. Minimum, vous voyez, je voudrais avoir des renseignements sur la guerre en Ukraine. Tac, au moins là c'est visé. Sinon, vous voyez, par induction successive, ils vont vous emmener vers des thématiques et qui peuvent nous emmener d'ailleurs très bas jusqu'au en dessous de la ceinture. Voilà. Donc poser une question, poser un thème de recherche. Et là, il y a des thématiques très très intéressantes, des petites vidéos très intéressantes. Voilà. Et ensuite, c'est l'appel à la responsabilité. Après, se réapproprier son esprit critique, donc au moins poser des questions, poser volontairement les thèmes de recherche, l'appel à la responsabilité personnelle et collective face à l'IA. Voilà ce que dit le texte. Une augmentation de la puissance humaine s'accompagne d'un élargissement de responsabilité. Oui. Le mot responsabilité, c'est le mot chrétien de la liberté. Être libre, c'est être capable de donner une vraie bonne réponse. La thèse fondamentale de l'enseignement catholique en matière d'anthropologie morale, c'est on ne sépare pas le vrai, le bien, la liberté. Et la liberté, c'est la capacité de promouvoir du vrai bien, pas simplement théorique, mais bien sûr pratique. Donc, appel à la responsabilité. Donc, il n'y a pas de fatalité à cadrer la dérive et à dériver avec le cadre. Non, non, nous pouvons nous positionner. Voyez, moi, la thèse que je développe dans Hyperconnecté et libre, c'est-à-dire que l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. On peut élargir par rapport à l'IA. Voilà. Qui mène qui? Est-ce que c'est moi qui mène cet objet avec beaucoup de distance? Donc ça va impliquer une charte de vie intériorisée de posture. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors, on a des situations de vie différentes. Moi, j'ai jamais de smartphone dans la poche. Quand on est mère de famille, difficile de ne pas avoir de téléphone, voilà, à touche, voilà, au moins un téléphone à touche, voilà. Alors, une invitation à aller de l'avance, un esprit critique, au moins poser des questions, chercher des thèmes, la responsabilité, il n'y a pas de fatalité, voilà. Alors, le Vatican est ouvert au progrès scientifique, hein, L'IA devrait être utilisée comme un instrument, dit-il, complémentaire de l'intelligence humaine et non se substituer à sa richesse. Quelle intelligence ? Est-ce qu'il y a de l'intelligence dans l'IA ? Est-ce que l'IA est confiance d'elle-même ? Bah non, c'est que du codage. Mais certains investissent l'IA comme un simulateur de conscience ou même une conscience. Simulateur de conscience, conscience, vis-à-vis, avec qui allons-nous parler ? Voilà. Est-ce que demain, on aura tous, dans 10 ans, plein de petits robots à la maison qui nous font déjà le ménage, hein, et ils nous font déjà les petits robots à l'intérieur de la maison, vous connaissez, hein, qui font le ménage, ils coupent la pelouse, et maintenant, ils vont recevoir les courses, voilà. Donc, demain, il y en aura de plus en plus des petits robots. Est-ce qu'on va investir affectivement avec eux ou non ? Est-ce qu'ils sont intelligents ? Ou est-ce que simplement ils sont fonctionnels? Donc, de dire qu'on est toujours plus intelligent qu'eux, du point de vue, au moins d'un point de vue moral, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons la dernière décision. Les questions sont décisives aujourd'hui au plan militaire, entre les drones autonomes, à implication létale, l'Église dit non. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ce que je retiendrai de tout cela, dit le numéro 2 du dicaster pour la culture, c'est l'importance de la responsabilité. On est responsable. Être libre, c'est être responsable, c'est donner une vraie bonne réponse à la vie. Et ça, c'est l'honneur de notre libre arbitre, de se mouvoir en liberté en donnant de manière active une vraie bonne réponse. Ça peut commencer par une charte smartphone, familiale, on en parle. Et bien sûr, tout cela, ça commence par la cohérence des parents, voilà, hein, de la respecter. Le critère est décisif car il n'est pas digne humainement de transmettre sa responsabilité à une machine. Donc l'enjeu, c'est une humanisation de surcroît. Si par glissement progressif, on transmet nos décisions, nos réflexions, notre ouverture culturelle à la série des informations que nous recevons de manière non critique, hein, pendant un an, Léon XIV, il n'existait pas sur ChatGPT, ça n'existait pas. Enfin, moi, je posais des questions sur Léon XIV, il me disait, il n'existe pas. Et Léon XIII, d'accord, Léon XIV, ouais. Les réponses de l'IA sont d'un aplomb déconcertant et avec parfois pas mal d'erreurs. Alors, vigilance quand même, une vigilance anthropologique et éthique, que le spécialiste du Vatican, hein, qui s'appelle Paolo Benenti, un consacré franciscain, écrit en ces termes, très intéressant cette phrase, « Nous devons craindre toutes les situations dans lesquelles nous ferions l'expérience d'une humanité diminuée pour permettre une machinalité accrue. » Oui. Comment on fonctionne au quotidien ? Est-ce qu'on fonctionne par une humanité de surcroît ? Ou une machinalité accrue. Est-ce qu'on est que dans l'utile fonctionnel ou est-ce qu'on est dans le discernement d'un vrai bien auquel on a adhéré avec son cœur ? Ce n'est pas même chose. Vigilance donc spirituelle, ultimement, la présomption de substituer Dieu par la puissance technologique et de l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, on pousse le bouchon un peu loin. Eh ben non. Ben non. Le match qui se joue aujourd'hui, c'est un messianisme technocratique avec un messianisme chrétien. Le messianisme technocratique croit qu'on va pouvoir tout transformer dans l'existence terrestre des hommes par l'action de la technique, ce soit Kurzweil, Sam Altman, Abbassis, Hariri et bien d'autres. Voilà. Alors, les grands de la technologie pensent un peu différemment, mais dans la Silicon Valley, on a cette croyance qui se démultiplie de que la technocratie, la technologie peut changer toute l'existence. Bon, on le pense pas du tout en termes chrétiens. La puissance technologique n'a rien à voir avec la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de sa grâce, de son amour. Voilà. Alors, entre appel à la vigilance et espoir, donc cette instruction, Antiqua et Nova, est un texte qui invite à des postures responsables. Alors, on peut On peut en évoquer quelques-unes avant d'avancer sur un autre texte. Contre toute démission personnelle face à la puissance de l'IA, l'homme est responsable de sa vie, c'est à lui de prendre des décisions. Quelle est la dernière fois où j'ai vraiment pris une décision? Une décision discernée, une décision priée, une décision libre. Eh ben, à y réfléchir de près, on peut se dire que c'est pas forcément souvent, on se laisse porter par un jeu d'action, réaction, interaction. L'homme est ordonné par la nature de son être à la communion interpersonnelle et non pas être seul devant sa machine. La génération Z, donc la génération de vos enfants, vit 30% d'interactions physiques en moins que la génération Y. En termes sociologiques, l'interaction. On va moins au cinéma, on va moins au théâtre, on va moins dans les drugstores, on fait moins les magasins, parce qu'on est devant son smartphone. En France, les Français passent 9 heures par jour devant un écran. Ordinateur de travail compris. Hein. Mais oui, 9 heures, c'est la moitié du temps réveillé. Et moi où j'en suis, en tout cas, c'est une question qu'on est tous invités à se poser. Est-ce que Dieu nous a fait pour être comme ça? Je pense pas. Je pense pas. L'intelligence humaine finalisée par la vérité doit être intégrée à la vie morale et spirituelle. Ce n'est pas la machine qui est en relation avec la vérité et la bonté, mais c'est l'homme guidé par sa conscience. Alors, finissons le rapport à ce texte par une citation de Georges Bernanos. Hein. Le danger ne réside pas dans la multiplication. Alors, Bernanos, c'est il y a un siècle. Hein. Donc, un peu moins d'un siècle. Mais déjà, voilà, la France des robots, quand il écrit la France des robots, déjà, il y a la question bergsonienne du décalage structurel entre l'augmentation de la rapidité de la croissance de la technique et la capacité de l'homme d'intégrer cette évolution. Nous, ce rapport-là, il s'accentue davantage. Je dirais, c'est plus le robot qui nous suit, mais non, c'est nous qui suivons le robot, qui suivons l'IA. Moi, je suis conseiller régional des chefs d'entreprise de ma région, pour les EDC, les entrepreneurs dirigeants chrétiens. Eh ben, quand je questionne les grands du data dans cette région, ils me disent qu'ils sont effarés. Effaré de la puissance, de la capacité, de la nouveauté, ça va trop vite. Et d'ailleurs, peu de gens au monde sont capables de synthétiser tout le rapport, toute la connaissance de l'IA. Lequin dit qu'il y en a 5. Voilà. Bon, comme bien savoir comment ça marche, pour savoir comment on peut se positionner avec. Donc, vigilance, connaissance, passer son permis. Pour après bien conduire sereinement. Pour l'instant, le code de la route ou le fonctionnement de la machine, on n'est pas à l'aise. La dernière alerte, c'est la dernière alerte de Anthropique il y a quelques mois avec Mythos, cette IA qui est capable de déceler toutes les maillons faibles des banques centrales. Donc, voilà. Heureusement que les Américains, en accord avec les Européens, ont interdit la divulgation de cette IA. Voilà. Tous les comptes en banque, on connaît les failles, etc. Ça casserait la confiance, ça casserait le système monétaire international. Voilà. Mais on en est là. On arrive à avoir des puissances qui sont capables de mettre en évidence toutes les zones de fragilité, au moins d'un point de vue du fonctionnement. La sagesse du cœur peut éclairer et guider l'usage centré sur l'homme de cette technologie pour l'aider à promouvoir le bien commun. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'IA peut être au service du bien commun, hein, et la prise en charge de notre maison commune. Mais attention, lorsqu'elle ne respecte pas ce bien commun, c'est l'appel à la vigilance principale lancé par le pape Léon dans son encyclique. Donc après avoir considéré cette instruction à très haut niveau, hein, entre le dicaster pour la congrégation de la foi et le dicaster pour la culture, avec deux mots d'ordre, un petit peu, se réapproprier son esprit critique et l'appel à la responsabilité, Voyons maintenant l'encyclique. L'encyclique Magnifica Humanitas. Donc l'encyclique, en termes, je dirais, genre littéraire, c'est le niveau le plus haut dans la hiérarchie des normes catholiques, en tout cas des décisions conciliaires. Hein. Voilà. Alors ce texte de Magnifica Humanitas, magnifique humanité. Alors évidemment, ça nous fait penser au Magnificat, hein, à la Vierge Marie. Voilà. Quelle humanité préparons-nous pour demain? Alors ce texte, il a été signé un 15 mai. Le 15 mai, c'est le jour de la signature de l'encyclique Rerum Novarum, Léon XIII, Léon XIV, 135e anniversaire de Rerum Novarum. Voilà que le pape Léon, nouveau pape, crée, signe un nouveau texte majeur pour lire les réalités sociales d'aujourd'hui. Il dit que, voilà, l'IAS, c'est comme la pupille qui nous aide à reconsidérer la lecture des réalités sociales d'aujourd'hui. Oui, pupille, voilà. Tac. Sous-entendu, si c'est la pupille, c'est que ça va devenir incontournable. Ça va devenir incontournable. C'est pour ça que l'idée du permis d'IA, apprendre à savoir comment ça fonctionne, s'en servir, se positionner de manière critique, responsable, va être une nécessité si on veut pas être des Amish. J'ai rien contre les Amish, mais bon, on prend cette expression pour mettre cette capacité d'être un peu en rupture avec la société d'aujourd'hui. Donc la question, c'est: est-ce qu'on va construire une nouvelle tour de Babel qui monte, qui veut saisir les forces d'en haut, hein, une sorte de prométhéisme, je dirais, technocratique. On peut aller d'ailleurs très très loin. Ou bien, est-ce qu'on va faire, on va se centrer sur la Jérusalem. Oui, c'est l'image qu'il prend d'un point de vue biblique. Babel, oui, c'est Abba à l'inverse. Donc c'est la puissance de Dieu qui vient pas de Dieu, mais qui vient de l'homme qui veut la récupérer de Dieu. Voilà. Dans un langage, dans un langage uniformisant, et avec une volonté de puissance et non pas de rayonnement, de rayonnement, on peut en parler. Ou soit c'est le texte de Néhémie qui rappelle la reconstruction de la ville de Jérusalem, la reconstruction des remparts, où les remparts de Jérusalem restaient toujours ouverts, alors que la tour de Babel, elle est fermée sur elle-même, sur l'entre-soi d'elle-même dans son auto-construction. Ici, l'image de Jérusalem, c'est: on confie à des grandes familles la construction d'une partie d'un mur, etc. Donc, c'est l'idée du travail collaboratif, du travail ensemble pour construire une cité commune. Voilà, bien sûr, le choix est fait pour Léon XIV de choisir la ville de Jérusalem et non pas la tour de Babel. Voilà. Alors, le postulat de ce texte, hein, en soi, la technologie n'est pas une force hostile à la personne ni un mal en soi, hein, mais elle n'est jamais neutre. Vous voyez ? Elle n'est jamais neutre. Être devant son scrollage YouTube, etc., ce n'est jamais neutre. Ça peut aider, je sais pas ce que ça peut aider, mais c'est jamais neutre. Sous-entendu, il n'y a pas de posture neutre par rapport à l'IA, parce que l'IA n'est jamais neutre, un minimum. Et après, que notre posture à nous, comme elle est traversée par notre histoire et nos désirs, elle est aussi jamais neutre. L'IA prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la régulent et l'utilisent. Voilà. D'où l'appel à construire le bien avec l'IA. Rester humain, c'est des expressions du texte, par co-responsabilité. On avance ensemble, comme on construit ensemble. D'où l'invitation de l'Église à faire se rencontrer les grands acteurs de l'IA au plan planétaire. C'est ce qu'elle fait déjà. Mais bon, on sait bien que ces rassemblements entre procès d'intention et réalité, c'est pas toujours aligné. Voilà. Co-responsabilité, subsidiarité, C'est-à-dire bah, de faire que on respecte les libertés des gens et non pas on façonne leur esprit, leur cerveau disponible. Et l'objectif, c'est la communion. Bon, permettre aux gens de bien vivre ensemble, qu'une humanité dans un multiculturalisme vive ensemble, puisque l'arrière-plan de notre vie chrétienne, c'est la vie trinitaire. Et la vie trinitaire, c'est un en relation d'amour. Voilà. Un en relation d'amour différencié. Voilà. C'est pour ça que le sacrement du mariage, auquel vous participez activement, vise cette capacité de vivre ensemble dans une unité différenciée, une unité d'unicité dans une relation d'amour, pour faire un petit pas de côté. Voilà. Alors, le premier chapitre, de mon point de vue, c'est un copier-coller, hein. C'est un copier-coller du compendium, d'ailleurs, de la doctrine sociale de l'Église, ce document de référence de 2005, et qui résume toute la position de l'Église sur, en tout cas, un copier-coller, en tout cas, un très bon résumé qui est fait, mais qui nous rappelle que l'Église n'est pas là pour donner des solutions toutes faites, qu'il faudrait faire copier-coller, mais de nous entrer dans un discernement personnel et communautaire. Vous avez entendu, oui, passer de la recette au discernement. Intéressant. Dans nos familles, passer de là où on en est, avec les grands, les petits, et puis monsieur et madame, où est-ce qu'on en est réellement, on va discerner aujourd'hui dans cette situation. Le pape parle d'anthropologie située. Voilà, l'anthropologie morale est toujours située dans une histoire. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous en vue de ce climat de paix, d'amour, qui promeut une unité. Voilà. Donc une pensée dynamique fidèle à l'Évangile selon un chemin de discernement communautaire. Il y a un discernement. On n'est pas là pour des recettes. On est là pour discerner. Et donc demander au Saint-Esprit de nous aider de nous éclairer. Puis dans un dialogue confiant, à plusieurs entrées, on voit ce qui est bon en fonction de la situation pour nous faire avancer dans l'étape de croissance qui est la meilleure pour nous aujourd'hui. Alors le chapitre 2 résume les principes de l'éthique sociale. Il y a un petit glissement doctrinal, hein, on va voir. Il y a trois fondements et cinq principes. Trois fondements, c'est la dignité de la personne, auquel on rajoute l'inviolabilité des droits humains, le droit à la vie, voilà, on y pense beaucoup dernièrement, de la conception au terme naturel, et le droit des minorités. Tiens, c'est un peu nouveau de parler avec autant d'insistance du droit des minorités. Puis, cinq principes, le bien commun, qui est le bien de tous et de chacun, hein. Voilà, le bien de nous tous, ou l'ensemble des conditions sociales qui permettent aux personnes et aux groupes leur croissance la plus intégrale, selon Jean 23, hein. Le bien commun, la destination universelle des biens, contre la concentration des richesses par les grands ténors des technologies. Oui, 67, les 67 plus grandes familles du monde, en termes de richesses, possède autant que la moitié de la planète. Voilà, c'est les chiffres de Oxfam. Bon, mais c'est des chiffres à entendre parce que il y a 5 ans, c'était 350, 338, et puis voilà. Sous-entendu, on va vers un phénomène de concentration de la richesse aux mains de quelques-uns, ce qui va à l'encontre de la destination universelle des biens, qui dit que l'argent, elle est destinée au bien du plus grand nombre, c'est-à-dire de tous. La subsidiarité, ne pas permettre à une instance supérieure de décider à notre place quand moi je peux décider. Donc, c'est pas une plateforme de décider à ma place quand c'est à moi de décider. La solidarité, bien sûr, le partage. On est là pour l'autre. Voyez, qu'est-ce que c'est qu'être humain? C'est être progressivement pour tous les autres. Quelqu'un d'humain, voilà, c'est celui qui progressivement son être est pour tous les autres. Voilà. Voilà. Et on voit bien les bras ouverts du Christ derrière. Et alors, le glissement doctrinal, c'est la justice sociale. Jean-Paul II avait mis la participation comme dernier principe. C'est-à-dire la capacité donnée à chacun d'apporter sa part au vivre ensemble. Le pape Léon, lui, met la justice sociale. avec bien sûr le test décisif des migrants pour promouvoir une fraternité. Le terme de participation, il est transversal. Quand j'ai lu l'encyclique, il est transversal à tous les principes. Voilà. Voilà. Donc le chapitre 2, c'est un vade-mecum de l'éthique sociale catholique. C'est intéressant. On est encore un petit peu en surplomb du sujet. Alors à partir du chapitre 3, est abordée la question technique domination. Voilà. Et c'est une critique de la notion de paradigme technocratique. La notion de paradigme, ça veut dire équilibre culturel. Un nouvel équilibre culturel aujourd'hui, le nouvel équilibre culturel de la planète, de la globalisation, de la mondialisation, c'est le pouvoir de la technique. Et là, il a été énuméré par le pape François dans Laudato Si, au début de son pontificat, et maintenant il est porté à la critique par le pape Léon. Alors, l'IA simule l'homme sans posséder conscience morale, empathie ni capacité spirituelle. L'IA simule l'homme. Voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime bien parler de simulation de présence, simulation de conscience. Qu'est-ce que notre cœur veut le plus? Il veut une qualité de présence. Voilà, c'est ça qu'on veut. On la veut dans le tabernacle, on la veut dans notre cœur, on la veut dans nos relations affectives, inamourées, et avec enfant gentil, papa content, maman content, hein. Voilà, une capacité d'être ensemble dans une qualité de présence, et des rassemblements comme les nôtres nous permettent de vivre ça, gérer ensemble de manière donc élargie. L'IA simule cette qualité de présence, elle simule une présence. C'est pour ça qu'elle est très séduisante, parce que cette présence, on l'a toujours et partout, à toute heure, hein, tout le temps. Mais c'est un mensonge. Ça simule l'homme. Et ce qui simule est un mensonge. Donc, sans posséder, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience. On pense qu'il y a une conscience. On parle à Gemini. Est-ce qu'on dit merci? Est-ce qu'on dit bravo à Gemini? Non, c'est que du code. C'est que du code. Il n'y a rien. Il n'y a absolument, ça simule. Donc, c'est intéressant déjà de visiter. Est-ce qu'on a de l'empathie avec l'IA? Est-ce que on lui donne une dimension spirituelle importante? Voilà. Alors, face à cette domination, en tout cas un peu de l'esprit, hein, de l'IA, il y a la nécessité d'un code éthique commun, indépendant des intérêts des seuls acteurs. Voilà. Voilà. L'enjeu, c'est d'aller dans une posture éthique. L'éthique, c'est la capacité de faire le vrai bien, et elle est portée par une liberté de pouvoir le faire. Donc, elle nous invite à une posture par rapport à l'IA, et puis une éthique du commun, de ce qui va être bon pour nous tous, ce qui va nous rapprocher les uns des autres réellement, ce qui va nous permettre de grandir dans un humanisme intégral, intégré, incarné, incorporé dans un corps vivant, et non pas dans un cerveau sur pattes, parce que on se sert de notre cerveau disponible. Voilà. Alors, l'appel central dans ce chapitre, hein, technique domination, c'est un concept que maintenant commence à être vulgarisé. C'est désarmer l'IA. Désarmer l'IA. Alors, dans une perspective sociale, hein, militaire, le soustraire l'IA à la compétition militaire et économique. Vous voyez, Mythos, c'est intéressant, Mythos. Il y a quelques mois, on sort un logiciel IA capable de décrypter toutes les failles des banques et des banques centrales. Ben, s'ils y arrivent, voilà. Évidemment, Anthropique, soumet ça au gouvernement américain, et le gouvernement américain dit, on bloque tout. Peut-être qu'ils font des trucs par derrière. Mais, en tout cas, Anthropique, lui, a une posture éthique et veut pas que l'armée américaine se serve de leurs données à eux. Donc, une compétition militaire, non, compétition économique, on voit bien. Ceux qui sont forts, le monde de demain, c'est le monde des données. On prend les données, je te prête de l'argent pour ton développement et tu me donnes toutes tes données sanitaires. Et puis voilà, quoi. Bon. Donc, soustraire l'IA à la compétition militaire et économique, donc au monopole. Vous voyez, le SP500 à la bourse de Wall Street qui détermine l'indice moyen de la valeur boursière, il est composé à 20% par les grands de la tech. Voilà, donc c'est un poids, on voit bien. En France, l'année dernière, il y a eu 135 milliards d'investissements étrangers. La moyenne, la moitié, c'était pour faire des data centers. Donc, les investissements d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. L'économie de demain, c'est l'IA, les data centers. Voilà. Donc, la critique, elle est frontale. Elle est frontale avec le transhumanisme et le post-humanisme. Alors, par rapport au transhumanisme, la limite n'est pas un défaut. La mort n'est pas un problème. Le transhumanisme veut repousser la mort. La maladie est une erreur. Alors, l'Église, elle n'est pas contre gérer un travail sur les progrès médicaux. On le voit bien en radiologie. Aujourd'hui, l'IA permet de déceler de manière très, très précise et bien plus importante que l'œil du cardiologue ou du radiologue, les maladies. Voilà. Donc, la question de la limite, est-ce qu'il faut respecter la limite de la nature humaine, incorporée ou pas? Et par rapport au post-humanisme, est-ce qu'il faut hybrider l'homme? C'est-à-dire, puisque l'IA va toujours plus vite, que l'IA va nous mener, est-ce qu'il faut connecter notre cerveau à l'IA? Tout le travail de Musk avec Neuralink, etc. Un cerveau connecté, on va avoir les lunettes connectées et les implants. Pour l'instant, ça marche pas 100% bien, mais ça marche un peu. Voilà. Demain, est-ce qu'il faudra, dès l'âge de 3 ans à la maternelle, augmenter aux enfants pour qu'ils soient dans la cour de récréation des grands quelques années plus tard? Voilà. Bon. Bonjour l'éducation, ça va être un peu difficile. Bon. Alors, à partir du chapitre 4, donc, je redis le fil rouge. Tout d'abord, on rappelle que l'Église, chapitre 1, une pensée dynamique, fidèle à l'Église, à l'Évangile, on est dans un discernement. Donc, on nous invite à un discernement et pas à trouver des solutions copier-coller. Dans le deuxième chapitre, on nous rappelle les principes transversaux de l'éthique sociale. 3 fondements, 5 principes. La dignité de la personne, l'inviolabilité des droits humains, le droit des minorités, les 5 principes, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, solidarité et justice sociale. Chapitre 3, technique et domination, critique du paradigme technocratique. La technocratie simule la présence, simule la conscience, désarmer l'IA. Par rapport à la limite de la nature, est-ce qu'il faut la transgresser ou la respecter? Transhumanisme veut la transgresser. Et le post-humanisme veut rendre l'homme hybride, mélangé, faire de l'homme un homme donc augmenté. Alors au chapitre 4, préserver l'humain dans la transformation. Oui, c'est super qu'on fasse cette conférence aujourd'hui parce que transfiguration, voilà, c'est l'homme illuminé de l'intérieur. Voilà, Jésus est illuminé de l'intérieur. Sa nature humaine est illuminé de l'intérieur par sa divinité. Et ça, c'est notre vocation, d'avoir une vie complètement illuminée par la puissance de la grâce, de la vie dans l'Esprit-Saint, et non pas par la puissance de la technocratie. Voilà. Alors, l'axe de ce chapitre, c'est de préserver l'humain dans la transformation. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie transformation, hein? Il nous invite positivement, et on reprend Tycho et Nova, à une alliance éducative positive avec la technique. Il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. On rappelle le désir et l'importance de questionner, d'être dans la question, discernement, questionner, thème de recherche, voyez, apprendre. C'est moi qui vais de l'avant, c'est moi qui mène la technique. Non pas la technique qui me prend en charge sur mon canapé en train de scroller et me dire « Ah, bon !» et de m'emmener dans un monde parallèle. Vous voyez, toute la stratégie du métavers de de Facebook juste avant que l'IA arrive, c'est-à-dire Zuckerberg, il voulait créer un monde parallèle. Moi, une fois, j'ai été dans un grand salon de technologie en France, et le directeur est venu, « Ah, mon père, c'est bien que vous soyez là, en habit, c'est sympa, etc. » Bon, moi, je vous dis très clairement, hein, les gens sont pas heureux, moi, je vais les emmener dans un autre monde pour être heureux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on doit aller derrière un autre monde, derrière nos écrans, ou encore plus loin, d'être augmenté, de pas respecter sa nature, ou même de transgresser les limites de notre nature, etc. Ou de consentir à notre corps, à notre dignité, à la grâce, à la présence réelle de Dieu et la présence de l'autre, pour que l'entre-nous de la relation soit habité de cet amour toujours plus grand. Et le match, il est là. Messianisme technocratique ou un messianisme authentique chrétien dans la vie, dans l'esprit. Alors, une alliance éducative, bon, à nous quand même de nous positionner de manière libre. Une mise en alerte sur les questions du travail. Je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés au Figaro, mais cette semaine, il y a 5 articles depuis 2 jours, 3e aujourd'hui et 2 demain, qui font une très bonne synthèse sur l'historique récent de l'IA. Et hier, c'était sur le travail, et en disant, est-ce que l'IA va nécessairement diminuer le travail, le nombre de postes de travail? Alors, le débat est très partagé. C'est pas du tout absolument oui. Actuellement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur le salariat junior, les entrants dans le monde du travail, c'est un peu plus difficile parce qu'on réserve l'apprentissage. On n'est pas au clair sur les effets à long terme de l'IA sur le travail. Donc, on réserve l'apprentissage à ceux qui sont déjà dans la boîte et pas aux nouveaux. Voilà. Donc, et puis le nombre de stages, de propositions de stages, aujourd'hui, on voit qu'il baisse parce que on sait pas quoi finalement faire parce que les stagiaires, ils font une tâche que normalement l'IA va pouvoir faire. Voilà. Donc, au moment de la révolution industrielle, c'était l'école bleue. Maintenant, c'est l'école blanche, c'est les cadres. Donc, c'est vous qui allait être bien secoué, voilà. Donc, d'où l'invitation sur cette question à ne pas perdre sa qualification. Vous voyez, le Saint-Père s'inscrit en faux contre une déqualification. Et puis, l'instauration d'un point de vue sociologique d'une surveillance automatisée. Moi, j'ai fait 10 ans de mission en Chine, ponctuelle, en 10 ans. Donc, j'ai vu toute l'arrivée de Xi Jinping, tous ces grands projets immobiliers se lancer et un peu se casser la figure ces dernières années. Et puis le crédit social être mis en œuvre. Sous-entendu, vous passez à côté vous traversez la route en dehors du passage clouté, ben vous avez tant de points en moins. Et à un moment, quand vous atteignez un certain nombre de points en moins, ben vous n'avez pas le droit de scolariser vos enfants à l'université, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion, vous n'avez pas le droit d'avoir... Voilà. C'est ça, la surveillance automatisée. Aujourd'hui, Palantir, la grande société américaine, sur ces questions-là, ben, elle a cote, parce que... voilà. Parce que c'est pour contrôler les masses, ça marche bien. En tout cas, en Chine, ça marche bien avec plus de 3 milliards de caméras dans la Chine d'aujourd'hui. Voilà. Le texte rappelle que le socle d'une société qui se construit harmonieusement, c'est la famille, fondée sur le couple entre un homme et une femme. Voilà. Voilà le bien social primordial à préserver. Quoi qu'il en coûte. Voilà. Mise en garde aussi contre l'architecture de la visibilité. C'est-à-dire que l'exposition de notre cerveau disponible aux écrans et à la culture des écrans façonne notre opinion. Et donc formate notre esprit et formate les conclusions de nos discernements. Voilà. Donc une invitation à prendre conscience de l'écranisation des esprits possible par la surexposition de nous-mêmes à ces écrans. Et le texte met en garde contre les nouvelles formes d'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage numérique, avec ce lien entre toutes les terres rares nécessaires à la production des outils technologiques. Dans un smartphone, il y a 70 métaux différents. Et s'il en manque un ou deux, c'est problématique. Donc, vous voyez toute la géopolitique qu'il y a derrière. La dernière, j'étais au Congo, Congo démocratique, dans le Katanga. Katanga, oui, à côté du Katanga, Lubumbashi, tout ça. Ben, c'est des zones. Donc, vous prenez l'avion. J'ai pris l'avion d'Éthiopie à Lubumbashi. Dans l'avion, il y a la moitié, c'est les Chinois. Moitié, un tiers. Et on voit bien, c'est des groupes d'ouvriers qui vont exploiter les terres rares, je dirais, vendues par le Congo aux Chinois. Vous voyez, donc la question géopolitique, la question de Goma, toutes ces terres avec le M23, le Rwanda, c'est pour contrôler toutes ces terres rares qui sont nécessaires à nos outils technologiques. Donc attention à une nouvelle forme d'esclavage numérique, voilà. Et le pape humblement demande pardon de ne pas voir au nom de l'Église, que l'Église n'a pas dénoncé assez tôt l'esclavage. Voilà. Donc là, il y a un acte de repentance, un acte d'humilité. Et en tout cas, elle avertit dès maintenant que l'esclavage numérique, c'est un esclavage d'actualité. Le dernier chapitre, c'est la question de la culture du pouvoir et de la civilisation de l'amour. Voilà. La guerre transformée par le numérique en option impersonnelle. C'est-à-dire la guerre, on sent que on lance des drones et puis les drones font leur travail sans qu'il y ait des décisions par derrière. L'Église dénonce. Moi, j'accompagne une thèse sur la question de la guerre juste, la légitime défense. C'est intéressant de voir le glissement historique. L'Église n'est contre, ne retient plus du tout la guerre juste comme un lieu régulateur des relations internationales. La légitime défense, par contre, est retenue. Voilà. L'Église veut promouvoir un monde multipolaire avec une culture multilatérale, donc diversifiée, où on apprend à s'écouter, à se rencontrer avec nos cultures différentes. Alors, 5 pistes de responsabilité sont proposées. Désarmer les mots. Intéressant, désarmer les mots. Voilà. C'est pas simplement désarmer les armes, mais que nos mots soient désarmés, que nos mots soient au service de... Voilà. On voit bien que sur le monde du numérique, les mots peuvent être très, très violents. Construire la paix dans la justice, adopter le regard des victimes, cultiver un saint réalisme et relancer le dialogue religieux. Voilà. Donc, un pouvoir nouveau, mais qui doit être au service d'une civilisation de l'amour. Alors, je vais pas avoir trop le temps de développer le texte. Il y a un texte qui a préparé ce texte. Voilà. Covadis Humanitas, une super synthèse. Donc, je vais dégager quelques idées fortes. Voilà. Quelques idées fortes. Derrière, pour revenir sur cette bagarre entre un messianisme technocratique et un messianisme authentique, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche derrière un écran? Qu'est-ce qu'on cherche derrière une IA? On cherche de l'infini. On cherche du toujours plus. Et ce toujours plus, qui existe derrière Google et encore plus maintenant avec Claude, Anthropique, ChatGPT, etc. Voilà, on cherche de l'infini. Et nous, en tant que chrétiens, on cherche de l'infini. Qu'est-ce que c'est que cet infini fini? Qu'est-ce que c'est que cet universel concret? Où est-ce que ça s'est synthétisé de manière réelle, existentielle et unique dans l'histoire du monde? La réponse, c'est le Christ. Le Christ. Christ. Voilà. Sous-entendu, la réponse à nos aspirations d'infini dans l'infinitude d'aujourd'hui peuvent trouver leur place comme une impasse. Je pense qu'on peut dire ça s'il n'y a pas discernement derrière les écrans, encore plus avec l'IA, ou soit derrière cette humble présence réelle de Dieu qui vient là où on en est, comme dit François de Sales, si tu veux aller quelque part, tu pars de quelque part, de partir de là où on en est, humblement, et Dieu nous donne sa grâce pour dilater notre existence et là, la transfigurer. Et donc, cette question de l'IA et moi, l'IA et l'Église, trouve finalement son point de hiatus, de son point frontal, sur une alternative, l'écran ou le Christ. C'est un peu sec de dire ça, mais ça cache quelque chose de réel en nous. Voilà. C'est pas exclusif, il peut y avoir des ou inclusifs, hein. Mais de se dire, tiens, et je pense que c'est une clé de lecture intéressante, pourquoi je veux toujours plus de puissance, toujours plus d'informations? Est-ce que ça me construit de manière intégrale, intégrée par intégration et intégralement? Ou est-ce que magnifica, humanitas, magnificat, mon âme exalte le Seigneur? Voilà. Dans l'accueil de la grâce. Voilà. On, ou une prière humble. Bienheureux les pauvres en esprit, pauvres de cœur, le royaume des cieux est ta première béatitude. Ou soit toujours plus d'écran. Voilà. Alors, évidemment, si les écrans prolongent cette recherche réelle d'une humanité de surcroît, le Christ révèle la plénitude de l'homme à lui-même, en soi, les écrans, l'IA, rien de mauvais. Mais, voilà, à nouveau, en tout cas, d'être clair sur l'alternative, de ne pas chercher un Dieu virtuel, mais un Dieu réel. Et un Dieu, seul le Dieu réel réalise notre humanité de surcroît. Un Dieu virtuel nous emmène dans un monde parallèle où on fait, ouais, c'est le film Avatar. Dans le premier film Avatar, au premier épisode, au moins, on allait du monde réel au monde irréel. Et après, c'est terminé, hein. Là, on est parti avec du bleu partout, voilà. Dans un monde qui n'existe pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut écraniser notre esprit? Oui, Jean d'Ormesson, il dit, l'écran, c'est ce qui fait écran. Je trouve que c'est intéressant comme raccourci. L'écran fait écran. Ou est-ce que, voilà, notre humanité à vivre, elle se fait par des rencontres de qualité, habitées par la présence de Dieu, par la sacramentalité de la présence de Dieu. L'Église est dans le Christ comme le sacrement du salut. Le sacrement des sacrements, c'est le Christ. Et le Christ et l'Église nous donnent les sacrements pour goûter. Le sacrement, c'est communication de la présence de Dieu. Alors, notre vie, elle est un don, mais elle est aussi une tâche. Notre vie nous est donnée, mais c'est à nous de la construire par la qualité des actes que l'on pose. De trois manières, accepter son corps comme un corps donné, comme il est, et non pas comme il est à rêver. Être un don pour les autres, oui, c'est être pour évoquer, hein, et accueillir la transcendance du don de Dieu et d'être ouvert à la grâce. Voilà des points d'ancrage incorporés, réels, réalisants, qui nous permet de nous poser comme une bonne quille de bateau et d'affronter la tempête qui arrive, hein. Voilà, la tempête qui arrive, voilà. Alors, avec confiance, allons de l'avant et puis demandons au Seigneur de nous donner toujours la grâce du discernement pour au cœur de notre quotidien, de choisir la voie de la divinisation de notre vie, par la grâce de Dieu et par l'amour vécu entre nous, et non pas une recherche de puissance prométhéenne qui risque de finir par nous isoler et d'inscrire nos rapports sociaux dans des rapports de force. Voilà, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.